Moi, j'ai fait une démarche, j'ai essayé de sérialiser tous les tous ceux qui ont des raisons institutionnelles là, contre Facebook, etc. Enfin, des régimes qui sont clairement dictatoriaux. La Chine et l'Iran, surtout dans les moments de tension interne, etc. Et la Chine, parce qu'ils ont peur d'une explosion sociale, ne voulaient pas comprendre comment ça va venir. Donc, il y a un contrôle vraiment très répressif. Ça veut dire, et même institutionnel, c'est-à-dire que l'État se met en contact avec les institutions qui comme Facebook, etc., pour normer, pour couper vraiment des utilisateurs. T'as l'Iran, surtout. T'as des pays qui sont intermédiaires, sont surtout des pays, je dirais, de la religion, la loi, des pays musulmans, etc., qui ont un contrôle aussi, mais pas totalitaire. Et il y a aussi des pays considérés libres où t'as quand même de la surveillance. Si vous voyez en Italie ce qui s'est passé, quand ils ont commencé à chavir de l'Italie, etc., il y a quand même un débat sur les outils, etc. Après, t'as d'autres pays comme les plus libéraux, les États-Unis, etc., où là, on ne sait pas, parce que si Facebook est utilisé pour
organiser... C'est utilisé par la NSA aussi.
Le 12 hein. septembre. Et donc, il y a quand même cette problématique, c'est-à-dire que les choses, c'est comme l'histoire, à mon avis, de la poule ou de l'œuf. Les choses, il n'y a jamais eu grande aventure du tout. Il y a des gens qui veulent faire du business et qui ont compris, comme dirait, à mon avis, des tendances sociales, qui sont des tendances sociales, une volonté de communiquer au-delà des circuits traditionnels, l'école, etc., les amis, et qui, parce que les créateurs de Facebook, de Google, ils viennent toujours d'une expérience de mouvement, comme Apple, dans l'école, dans l'université américaine, etc. Ce sont des gens qui ont bien reçu le nouveau, ils ont quand même des manifestations, etc. Nous, on a quand même.
Donc, ils sont très imprégnés de capitalisme.
Donc, ça, ils sont transformés, hein, on est jeunes, etc.
Ça ne dure pas longtemps, c'est la jeunesse.
Il y a toute la vie de la capitalisme. Et donc, parce que beaucoup de ceux qui ont créé, ils viennent d'une expérience de mouvement d'école, au minimum. Ils ont fait des journaux, ils ont été peut-être pas sur la barricade, mais c'est les éléments les plus progressistes à l'intérieur de la communauté dans laquelle ils étaient. Donc, on évolue, ben, on commence à faire du business, on parle de se connaître, culturellement, etc. Et il y a toujours cette discrépance, cette antinomie avec ce que les choses peuvent devenir. C'est ça.
Tu sais que les gens qui travaillent chez Google sont très heureux de hein, travailler avec Google.
Ouais, pour le moment.
Non, mais actuellement, toujours.
Tu vois, oui, c'est donc, effectivement, c'est un phénomène qui peut se transformer. Ce qui est sûr, c'est que les entreprises essayent en tout cas de reproduire à l'intérieur ces phénomènes-là pour pomper toute la créativité qu'ils peuvent. Je les salue à leur insu. On collabore. Et pour casser aussi un lien qui était toujours situé dans le travail intellectuel, on a des compétences et on essaie de se faire tenir le même possible. Donc tu fais un projet, attends. Tu fais un cours, tous les mois, tu dois faire tes cours parce qu'il y a la prime, d'accord, c'est un bon projet. Pam, et ça tombe. Voyons clair, les gens réfléchissent. Et si tu commences à mettre sur Sharing, Point, tout ce que tu as fait, tout ce que tu sais, et bien, ta prochaine augmentation, voilà. Il faut faire un coût encore supérieur. Tu ne peux pas vivre avec tes connaissances, peinard, hein, parce que dans la vie, tout le monde. C'est le retour sur l'investissement, surtout dans le travail intellectuel, quand on fait des études, etc. On ne peut pas tout interpréter tout ça. Et en tout cas, dans les entreprises, c'est une façon pour exploiter toutes sortes de salariés, à leur insu même, de leurs compétences et pour réfléchir les bonnes choses. En leur empêchant de valoriser individuellement, de faire venir sur leurs compétences, ben, je ne te donne pas, je ne sais pas. Donne-moi pour toi. Et les choses. Donc, il y a aussi ces phénomènes-là, parce que même elle a compris la valeur de la créativité, il a regardé ce qui se passe en dessous. Il y a toujours des gros phénomènes. À mon avis, on ne sait pas ce que ça va devenir.
Enfin, il y a aussi un antagoniste. Celui des hackers, c'est un antagoniste. Plus récemment, le parti des pirates qui s'est créé en C'est très droit,
mais oui, mais peu importe, c'est des libéraux.
Mais
peu importe, c'est très intéressant. Parce que de toute façon, c'est ce genre de choses. Parce que justement, là, la contradiction fondamentale, ça va être entre la liberté individuelle, c'est-à-dire le jeu, par rapport au nous, qui est effectivement le réseau. Qu'est-ce que c'est que ces réseaux ? De fait, c'est une formidable agora universelle. Donc, une agora, ça veut dire que tout le monde peut parler. Mais, de fait, ceux qui vont s'imposer dans l'agora, c'est ceux qui auront des techniques de communication et d'élaboration du discours. Donc, tu t'aperçois que se reposera au fur et à mesure de l'idée que est-ce que c'est véritablement une agora dans laquelle les individus et les collectifs vont pouvoir vraiment s'exprimer, ou si un jour, vu que les PDD apparaîtront quittés, dans cette agora, il y a des gens qui vont dire non, il faut faire un travail clandestin. Et en fait, on se retrouvera avec des problématiques qui sont des problématiques mouvementées via un siècle. Et c'est ça qui est assez intéressant. C'est-à-dire qu'en fait, on va vers l'avant, mais on va retrouver des problématiques plus anciennes et ils se reposeront des questions de pouvoir, manifestement, des questions de pouvoir, c'est-à-dire d'organisation, d'auto-organisation des gens sur des thématiques qui leur sont propres. Et c'est ça qui est intéressant. Mais est-ce que on va vers ça? C'est une hypothèse.
Et ce que je trouve plus délirant, au fond, ce ne serait pas une espèce de démonstration que quand les conditions des biens sont à ce niveau-là, les gens utilisent tout de suite les moyens technologiques pour les moyens.
Ce ne sont que les moyens technologiques.
Ça montre bien que les sociales soient à ce niveau-là pour être poussé à la. Ça montre bien que c'est toujours le social qui précède les technologies de son usage.
Ça, c'est clair.
Mais le social s'exprime à travers les outils. Il utilise ses outils. Donc après, il est formaté d'une certaine façon. Moi, ce qui est intéressant dans ce que tu avais dit au niveau de l'histoire, c'est qu'au début des années 80, moi j'étais toujours dans la question. Mais c'est de savoir comment et quand est passée en fait l'idée de formatage des activités productives
intellectuelles.
Ah bon? C'est-à-dire que par exemple, moi j'étais donc en 86-87, il y avait donc les petits Mac, hein, les tout petits Mac, et puis donc tu ne pouvais pas faire de mise en page, hein, c'est impossible, il n'y avait pas d'outils. Et donc, moi, j'étais dans une entreprise où le patron a donc débauché un de ses amis qui était à Los Angeles pour faire un programme d'édition de livres. Il l'a créé, il a vécu 10 ans dessus, mais au bout d'un an de travail, est arrivé sur le marché les produits Adobe, c'est-à-dire Express, PageMaker, et tout ça.
Ouais,
c'est au-delà du traitement, c'est la mise en page. C'est déjà un peu plus complexe, tout ça. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir, tu avais donc la phase où toi, tu envoyais donc, des informations à l'informaticien pour qu'il te les renvoie d'une certaine forme, mais c'est le moment où des types ont pensé qu'ils pouvaient formater des savoir-faire professionnels pour pouvoir les vendre au maximum de gens. Ça, c'est intéressant de savoir.
C'était à ce moment-là. C'était au début des années 80. Alors, c'est marrant parce que 84, c'est une date clé, hein, quand même, mine de rien. c'est la date de l'arrivée du PC, à peu près, la personne a trouvé sur la durée. C'est aussi la date, c'est important, de l'éclatement du monopole d'AT&T aux États-Unis. Et quand il y a eu l'éclatement du monopole d'AT&T aux États-Unis, ce qui est quand même important, parce que AT&T, c'était le monopole de tout ce qui était télécommunication et réseau. Et AT&T avait l'équivalent du CNET, ce qu'on appelait le Centre National de Relais, qui était les Bell Labs. Et en fait, quand il y a eu éclatement du monopole d'AT&T, il y a eu la création de ce qu'on a appelé les Baby Bell aux États-Unis. Et en fait, le problème, c'était aussi de savoir comment diffuser et transférer ce savoir-faire qui était le savoir-faire de l'AT&T monopolistique à des babybelles qui se créaient de toutes pièces. Hein. Et donc, en fait, à partir de ce moment-là, ils ont été obligés de formaliser leur process. C'est de dire comment je travaille, comment j'installe une ligne téléphonique. Parce qu'avant, c'était du savoir-faire qui se transférait d'homme à homme, on va dire, hein, de sur le tas, comme on dit. Hein. Pardon ?
C'est une église.
Ouais, c'est ça, à l'intérieur, si tu veux, on prenait un jeune, on lui montrait, et puis il savait faire. Et à partir du moment où il y a eu éclatement, c'est-à-dire où il y a eu plusieurs sociétés, ATT a dit, attendez-moi, mais vous, la loi américaine m'interdit maintenant d'être monopole, donc je ne vais pas donner mon savoir-faire aux autres. Hein, démerdez-vous. Donc il a fallu documenter tout ce savoir-faire, et tout. Et moi je peux vous dire que j'ai travaillé pour ATT dans les années 90, je n'ai jamais vu autant, et après c'est arrivé par d'autres, dans d'autres, de documentation des process, du style, vous ouvrez la porte, hein, vous mettez la clé dans la porte, mais c'est jusqu'à ce niveau de détail. Hein. Vous asseyez, vous tirez votre chaise, etc. Hein, pour expliquer en fait à des gens qui ne savaient rien faire comment on installe une ligne téléphonique, comment on branche un câble, etc. Et donc il y a une documentation de tous ces process qui en fait étaient ce que faisaient les gens au quotidien.
Ce qu'on appelle la codification.
La codification de tout ça en activité et en
date. La production qui était générée qui n'existait pas avant.
Voilà.
On payait des gens.
Et donc là, on a payé des gens pour faire ces choses-là, pour décrire ces processus-là. Et au passage, la succession de ces, enfin disons, la généralisation de ça a conduit à ce qu'on fait maintenant, c'est enfin, l'optimisation des tâches, c'est d'enlever toutes les tâches inutiles. Autrement, le gars qui va à la cafette 5 minutes pour aller prendre un café, pof, zappé. Hein. Moi j'ai eu par exemple, des cas où toutes les tâches qui ne sont pas purement productives, elles sont supprimées.
Oui, parce que c'est.
Et du coup, on ne fait plus qu'une liste de tâches qui sont dans la documentation des process. Et tout ce qui était.
Le
temps est mesuré, bien entendu. Hein, et tout ce qui était éventuellement, d'ailleurs, échange informel, l'exemple de l'échange informel, c'est l'échange devant la cafétéria, devant la machine à café, ça c'est connu. Hein, le sociologique, c'est.
Caméra à café, ça.
Ouais, caméra à café, où effectivement, tu peux échanger des trucs informellement. Ça n'existe plus. À tel point que chez nous, dans les nouveaux locaux, ils ont inventé, ils ont mis des coins café à des endroits tels que de toute façon, si les gens veulent commencer à parler entre eux, ça gêne tellement les voisins qu'ils ne peuvent pas rester.
Et l'efficacité de l'organisation, après ce processus de taillorisation supérieure à celle antérieure ou pas?
Ben,
on ne sait pas, nous,
mais moi c'est normal.
Est-ce qu'on le mesure vraiment? On ne le mesure pas forcément.
On peut
vraiment.
Le mesurer en termes de qualité.
Oui, mais enfin, toutes ces mesures-là sont utilisées. Moi, je ne crois pas à ces mesures.
La qualité, c'est
surtout. En qualité, c'est certainement pas meilleur.
Ce n'est pas à cause de ça, c'est une volonté du capitalisme lui-même de faire des choses de qualité inférieure. Ça, c'est.
Donc ça correspond à ces dates-là en fait, hein, le fait d'avoir aussi formaté, préparé les tableaux, les templates, ce qu'on appelle les templates, de façon à ce que les gens remplissent des templates et n'aient plus à tout réécrire, ça date de cette époque-là.
Voilà, cette codification du savoir, moi c'est très intéressant parce que peut-être un an, comme toi dit, fois, on ne sait pas, qui sont des travailleurs au projet, mais ils sont tellement enlevisés et compartimentalisés qu'ils ne savent pas le grand idée du projet, ils ne savent pas qu'est-ce qu'il est le projet, ils sont seulement cette petite chose, oui, j'ai fait seulement une, deux, trois, quatre choses, et c'est ma route, donc comme ça. Et, c'est justement, j'ai quoi, en capacité de codifier ce type de savoir par les grandes sociétés qui produisent aussi de cette souffrance. Parce que, par exemple, pour faire une traduction de quelques documents pour moi, c'est pas possible que tous les codifiés. Exactement tous les passages que je devrais faire pour réaliser cette traduction. Parce que peut-être il y a un terme, un mot spécifique, je ne sais pas. Je vais sur Google, je dis quelque chose là-bas, ou peut-être il y a un mot plus vieux que j'ai trouvé par le dictionnaire de 2010 de Petit Robert, mais le Petit Robert des années 60. Et donc, ils ont toute une série de passages, et même si je sais pas, avec Facebook ou avec mon chat, j'écris à mon ami italien. Mon italien, comment on dit comme ça, parce que je ne sais pas bien comment. Hein. Et donc, c'est avec ce type de production, que c'est plus en plus comme ça pour, dans toutes les catégories de travail, hein, c'est plus en plus difficile, peut-être impossible, de codifier ce type de travail. Donc, peut-être quand nous devons travailler dans un contexte très très codifié, non, comme Télécom France, ou très très codifié, dans lequel je ne peux parler pas avec mon voisin, j'ai droit de travailler seulement sur cette boutte-là spécifique, hein, et produire une espèce de supérance, parce que j'ai droit d'être codifié comme personne, comme ma production unique réelle, et je n'ai pas la capacité, je n'ai pas la possibilité de utiliser toute cette autre série de richesses de savoir, de connaissances. C'est peut-être là où aussi on sort de souffrance, non? Bon, je vais vous poser comme ça, si c'est...
C'est que lorsque le travail de traduction, c'est... De toute manière, c'est un travail de réinterprétation et de réécriture. Et c'est pour cela qu'à ma connaissance, il n'y a aucune machine qui puisse faire un